Bien, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques têtes dans cette salle que je connais, nos amis d'ATD Carmonde. Je dis ça tout de suite parce que je vais souvent faire référence dans l'intervention que je vais vous proposer pour présenter la démarche des actions éducatives familiales à ce que, bien avant que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme soit créée, avait déjà eux-mêmes mis en place. Donc je dirais que c'est déjà en préambule le point le plus important sur lequel je veux insister, sur lequel j'insisterai, c'est que cette démarche, hein, puisqu'il s'agit bien d'une démarche dont que je vais évoquer avec vous ce matin, est une démarche qui, à son origine et surtout dans son prolongement éventuel, prend appui sur l'existant. Et ce point-là est extrêmement important, surtout à un moment où il est parfois difficile d'accepter, je dirais, d'ajouter à ce qui existe de nouvelles modalités et de nouvelles démarches. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette démarche des actions éducatives familiales et de vous expliquer plus clairement de quoi il s'agit et surtout de vous montrer quelle est aujourd'hui l'implication très forte du ministère de l'Éducation nationale pour à nos côtés déployer cette démarche alors, au plus près des territoires, hein, puisqu'il va s'agir dans une cinquantaine de départements d'aller plus loin sur cette question-là. D'abord, vous expliquer ce qui fait que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il y a quelques années, a décidé de s'intéresser à cette question qui aurait pu paraître éloignée de son cœur de métier, la lutte contre l'illettrisme, qui est celle de la question de cette question que vous vous posez, je crois, depuis le début de la semaine, de la relation qu'il peut y avoir entre réussite scolaire des enfants, réussite éducative et insertion, formation des adultes, et en l'occurrence de ce que nous appelons, nous, dans cette démarche-là, les adultes parents. Donc quelques mots au préalable, parce que je crois que c'est important de situer le contexte sur la question de l'illettrisme, sur le problème de l'illettrisme dans notre pays, en prenant appui, parce que je crois qu'il le faut, sur un certain nombre de chiffres, et ce d'autant plus que ce sont des chiffres qui sont extrêmement récents et qui, pour la première fois dans notre pays, nous permettent de faire une comparaison entre deux enquêtes, l'une que nous avions réalisée avec l'INSEE en 2004 et que nous venons de reproduire en 2011 et dont nous venons de rendre public les résultats. Et c'est extrêmement important d'avoir une vision de ce qui s'est passé sur cette période de cette année. Je vais pas insister parce que je pense que c'est pas franchement nouveau pour vous, mais c'est quand même intéressant et important de le repréciser, y compris dans ce qu'on va voir lorsqu'on abordera cette démarche des actions éducatives familiales, que pendant très longtemps dans notre pays, on a et encore aujourd'hui, il nous arrive parfois, pour ne pas dire souvent, et y compris de la part d'un certain nombre de décideurs, c'est-à-dire de ceux qui mettent en place au plus près des territoires les réponses pour les différents publics qui sont concernés par cette question de la difficulté d'accès à ce que j'appellerais la culture scolaire. Il est important de faire la distinction de trois problématiques parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France a une originalité parmi les autres pays, même si aujourd'hui un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs dans le cadre d'un groupe de travail européen auquel nous participons, se posent la question, pour leur propre situation aussi, d'opérer cette distinction que nous faisons donc depuis quelques années entre trois situations, et j'insiste sur le terme situation, entre trois situations, c'est la situation des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, bien qu'ayant suivi une scolarité au moins sur la durée parfois qu'on peut considérer comme étant normale de 6 ans à 16 ans, en sortant de l'école, ne maîtrise pas les savoirs de base, les compétences de base, les compétences clés. J'utilise volontairement ces trois termes différents parce que ce sont des termes que vous entendez suivant votre contexte professionnel et qui recouvrent quand même parfois les mêmes situations. Donc il s'agit de personnes qui ne sont pas autonomes dans des situations de la vie quotidienne. On a une deuxième situation qui est de moins en moins fréquente, courante en France, même si sur un certain nombre de territoires, et notamment dans les territoires ultramarins, je pense notamment à la Guyane ou à Mayotte, au département de Mayotte, des personnes qui n'ont, elles, jamais été à l'école. On se trouve donc face à une situation qui est celle qu'on appelle, celle qui recouvre l'alphabétisation. Et enfin, une troisième situation qui est peut-être beaucoup plus fréquente, mais qui, en termes d'effectifs, n'est pas aussi importante, contrairement à ce que beaucoup croient que la situation d'illettrisme, c'est la situation de ces personnes qui, venant d'un pays étranger, ne maîtrisent pas le français, puisqu'il s'agit pour eux d'une langue étrangère. Alors, certes, des nuances à apporter dans cette troisième situation entre ceux qui ne maîtrisent pas le français, mais qui, par contre, ont vécu une scolarité normale et parfois même brillante dans leur pays d'origine, ils sont plutôt minoritaires, et la situation de ceux qui ne maîtrisent pas la langue du pays d'accueil, ce français, langue étrangère, mais qui en plus, dans leur propre pays d'origine, ont vécu une scolarité, pour le moins, pour un certain nombre d'entre eux, chaotique. Mais il est important d'avoir à l'esprit ces trois situations-là, et il est important régulièrement, même si ça fait 10 ans, même beaucoup plus, qu'on ressasse cette nécessaire distinction à opérer, parce que les actions qui vont être mises en place pour les adultes qui relèvent d'une situation ou de l'autre, même si parfois elles peuvent trouver des points de convergence, au moins pour ce qui s'agit du repérage, de l'incitation, du donner envie ou de faciliter le oser réapprendre, hein, puisque c'est aujourd'hui un des slogans qu'on utilise. Il est important de savoir que, j'imagine que je ne vous apprends rien, qu'une personne qui a été scolarisée a un rapport avec l'école, avec les savoirs, avec l'apprentissage, qui est pour le moins très souvent douloureux, difficile, et c'est ce qui fait que pour cette personne-là, l'entrée à l'école et les sollicitations dont elle peut être l'objet lorsque ses enfants sont à l'école sont parfois extrêmement difficiles à intégrer. J'avais dit que je ferais quand même plusieurs clins d'œil à nos amis d'ATD Quart Monde. Il faut savoir qu'on considère que les premiers à avoir évoqué cette question de l'illettrisme dans notre pays, dans les années 70, c'est le fondateur d'ATD Quart Monde, hein, Joseph Brzezinski, qui, pour le premier, poussait un cri d'alarme sur le fait que dans ce pays, alors que la scolarité était obligatoire depuis un certain nombre d'années, il y avait des personnes qui étaient scolarisées, qui avaient été scolarisées, qui malgré tout n'étaient pas autonomes dans des situations de la vie quotidienne. Quand on veut illustrer ce que sont ces situations de la vie quotidienne, comme le disait notre ancienne directrice Marie-Thérèse Geffroy, avec son franc-parler, on ne s'envole pas dans des considérations un peu fumeuses. On donne des situations qui sont vraiment des situations courantes. Il s'agit pour ces personnes-là de situations qu'elles rencontrent au quotidien et qui font qu'elles ne peuvent pas seules les accomplir, qu'il s'agisse de retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets, qu'il s'agit de retirer un billet de train ou prendre un billet de métro pour venir sur le réseau TCL lyonnais. Je dis cela parce que c'est vrai que c'est un réseau qui a particulièrement fait disparaître les personnes vivantes derrière un guichet, qui sont capables d'écouter, d'entendre et de pouvoir apporter une solution à ces personnes qui sont en difficulté dès qu'il s'agit de lire un certain nombre de consignes qui sont données sur un automate. Mais c'est aussi, c'est ce qu'on a fait apparaître en caractère gras, suivre la scolarité de son enfant. On a conduit une expérimentation il y a quelques années sur le territoire, alors volontairement un territoire dont on ne peut qu'on ne suspecte pas a priori d'être touché par les problèmes d'illettrisme, puisqu'il s'agissait de la ville de Château-Chinon. de la petite ville de Château-Chinon, plus connue pour d'autres raisons que pour son taux d'illettrisme. Et dans cette ville de Château-Chinon, on a sur plusieurs écoles essayé de quantifier, de récupérer tout ce qui passe dans le cartable d'un enfant sur le mois de septembre d'une année scolaire ordinaire. On s'est aperçu que lorsqu'on met de côté l'ensemble des messages, alors qu'ils viennent ou qu'ils proviennent de l'école, évidemment, mais pas uniquement de l'école, du centre social de Château-Chinon, des différentes fédérations de parents d'élèves, d'un certain nombre de mutuelles, d'assurances, on s'est aperçu que ça faisait une pile de documents qui pouvaient, pour chacun d'entre eux, constituer évidemment des obstacles. Et c'est pour ça que c'était important de repérer cette distinction à faire entre les trois situations que j'ai évoquées, que lorsqu'une personne est en situation d'illettrisme, à Château-Chinon comme ailleurs, elle n'ira pas forcément, en sachant qu'elle a essayé de contourner, de dissimuler, de cacher, y compris à ses propres enfants. Elle n'ira pas spontanément frapper à la porte de son voisin ou évoquer cette difficulté-là avec le travailleur social qui est censé l'accompagner, voire évidemment avec l'enseignant pour lui dire, lorsqu'elle reçoit l'invitation de la FCPE ou d'une autre organisation à participer à une réunion d'information pour les parents, c'est une personne qui va se retrouver souvent exclue de ces temps-là qui sont censés être des temps organisés pour eux. Je dis la FCPE parce que c'est une question que nous évoquons très souvent au niveau national avec nos amis de la FCPE sur cette question de l'implication de ces parents, y compris dans des organisations comme celle-ci, qui sont extrêmement éloignées de la culture scolaire et du langage scolaire, mais qu'on retrouve quand même aussi d'une façon assez évidente, y compris dans les modes de communication de ces organisations qui sont proches de l'école, voire qui s'annoncent comme étant complémentaires de l'école. Donc ces situations de la vie quotidienne aussi, c'est cette difficulté à lire pour un certain nombre d'entre eux, et on verra qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine lorsqu'ils travaillent, lire une consigne de sécurité, lire un schéma, appliquer un certain nombre de règles dans toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui inondées par l'écrit, contrairement là aussi à ce qu'on peut croire, avec notamment l'arrivée en masse sur ces 20 dernières années de ce qu'on appelle les démarches qualité, où des salariés étaient, bien qu'ayant des difficultés avec les savoirs de base, il y a une trentaine d'années, arrivaient quand même à développer sans difficulté leurs habiletés professionnelles. Et pour eux, c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué, parce que ce qu'ils avaient réussi autrefois à faire en utilisant d'autres compétences, et j'insiste sur cette question des autres compétences, ils sont obligés aujourd'hui de reporter des petites croix dans un tableau à double entrée pour pouvoir, lorsqu'ils sont magasiniers par exemple, c'est des exemples concrets que je vous donne, indiquer ce qui est sorti ou ce qui va entrer du magasin. Il s'agit, je vais maintenant vous donner quelques éléments sur cette enquête, parce que c'est extrêmement important. Ça a été extrêmement important pour nous, petite organisation, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que nous sommes ni de ce que nous faisons, parce qu'il me faudrait beaucoup plus de temps, mais simplement retenir que nous sommes un groupement d'intérêt public. Et je crois que la forme juridique de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme recouvre bien aussi ce qu'est sa méthode de travail. Sa méthode de travail qui se résume dans son slogan « Se réunir pour mieux agir ». Lorsqu'elle a été créée, cette Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la page de l'illettrisme n'était pas complètement vierge. Beaucoup de choses avaient été écrites, beaucoup de choses avaient été dites, notamment par tous ceux qui, sur ces questions-là, depuis, j'évoquais à Teddy Carmonde, depuis le début des années 70, alertaient, disaient et surtout mettaient en place des actions. C'est extrêmement important d'insister sur cette cette question-là, c'est que cela fait très longtemps que, parfois avec beaucoup de difficultés, notamment pour obtenir les légitimités qui sont utiles, beaucoup de difficultés, ces acteurs qui sont souvent ceux qui interviennent sur ce qu'on appelle, de façon un petit peu générique, le champ du caritatif, mettent en œuvre au plus près des personnes et surtout avec elles. Lorsque l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a été créée, l'une des préoccupations majeures, après avoir défini ce que recouvrent les situations d'illettrisme, ce que je viens de vous dire, c'était d'apporter des éléments objectifs et clairs sur de qui parle-t-on, de combien parle-t-on et où se trouvent ces personnes qui sont en situation d'illettrisme. Parce que jusqu'à la première enquête que nous avons réalisée avec l'INSEE en 2004, on était sur des estimations qui étaient parfois un peu fumeuses et qui étaient surtout des estimations qui ressortaient généralement au moment des rentrées scolaires lorsqu'il s'agissait généralement de désigner un coupable facile, lorsqu'il s'agissait de parler de la lutte contre l'illettrisme et de ce nombre important qu'on estimait parfois suivant l'utilisation abusive qu'on pouvait avoir des enquêtes internationales comme celle de PISA. On a entendu dans la fin des années 90 des chiffres très fantaisistes circuler sur une proportion de l'ordre de 30% de la population française qui était en difficulté avec les savoirs de base, et cela permettait à un certain nombre d'acteurs de désigner généralement de façon assez facile et rapide l'école comme étant l'unique coupable. Hein, j'ai en tête j'ose à peine dire un livre qu'a écrit un certain penseur, enfin soi-disant penseur de SOS Éducation, lorsqu'il parle de l'école, la fabrique des crétins, je crois, hein, un certain Brugelli, je pense que qui ne fait pas partie de votre, au moins je l'espère, de votre livre de chevet. Voilà, mais il faut savoir que des auteurs de ce type-là et des organisations de ce type-là ont malheureusement eu pendant et parfois encore trop longtemps pignon sur rue et je dirais en résumé leur démarche et leurs actions en se contentant, suivant la place où on est, de désigner soit l'école comme étant le coupable, soit évidemment les parents, et dans ces parents-là, évidemment la facilité est de désigner ceux qui sont les plus pauvres, les plus en difficulté, les plus exclus. Notre méthode de travail n'a pas été celle-ci. Notre méthode de travail a été de dire que sur les questions de la réussite et de la lutte contre l'illettrisme, il était important de mettre tous les acteurs autour de la table et de prendre la parole de chacun et d'essayer de construire une parole collective. C'est pour ça que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme s'est dotée d'un cadre national de référence et qui permet à tous les acteurs qui constituent cette structure-là, de la CGT au MEDEF en passant par ATD Quart-Monde, la Ligue de l'enseignement, les Franca, la CNAF, j'en passe, et beaucoup, puisqu'ils sont plus de 120 organisations à être dans notre comité consultatif. Et évidemment, encore une fois, ATD Quart-Monde, Emmaüs, le Secours Populaire, le Secours Catholique, les CMEA, le GFEN, parce que j'ai entendu parler de Sylvie Chevillard qui était là hier. Tous ces acteurs-là ont, à un moment donné, participé à ce travail collectif qui nous permet aujourd'hui d'avoir les idées le plus claires. Mais ce n'était pas suffisant. Il faut savoir qu'en 2005, au moment où on va sortir cette première enquête, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, je crois que c'est important de s'arrêter sur cet événement-là, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur la question de la démarche des actions éducatives familiales. En 2005, nous avons failli disparaître. Nous avons failli disparaître parce que vous avez certainement encore en mémoire les événements du mois de novembre 2005 où quelques banlieues s'enflammant, notamment dans la région lyonnaise, un certain nombre des plus hautes autorités de l'État ont estimé à ce moment-là qu'il était peut-être judicieux de réunir dans une seule structure tous ceux qui contribuaient pour eux à la lutte contre, on va dire, les exclusions linguistiques. Hein, et on a à ce moment-là proposé de créer une structure qui s'appelait l'Agence nationale de cohésion sociale et d'égalité des chances, dans laquelle on retrouvait une partie de la délégation interministérielle et la ville, à la ville, et évidemment l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, puisque le raccourci extrêmement facile qui était utilisé à ce moment-là, c'était de considérer et beaucoup, je dirais, osent encore utiliser ce raccourci-là, que lorsqu'on n'est pas capable d'utiliser des mots pour s'exprimer, on utilise ces points. Et donc vous imaginez à quel point des raccourcis comme ceux-ci sont extrêmement douloureux. Je reviens sur Château-Chinon. Quand on évoque cette question-là avec des personnes qui sont en situation d'illettrisme, et je dis bien avec des personnes et qui ont développé beaucoup d'autres compétences et qui sont surtout des citoyens à part entière, lorsqu'elles entendent dans les plus grands médias qu'on n'explique que lorsqu'on est en difficulté avec la langue, avec les savoirs de base, on est les premiers à jeter des cocktails Molotov dans les voitures. C'est vrai que c'est parfois un petit peu douloureux à entendre. Il faut savoir qu'en 2005, on a failli, nous aussi, disparaître dans cette espèce de frénésie qui était celle des plus hautes autorités de l'État à ce moment-là. Et ce qui nous a sauvés à ce moment-là, entre autres, au-delà de la mobilisation de nos partenaires, c'est de montrer... à travers les chiffres, donc je vais vous donner les chiffres de la nouvelle enquête, mais les chiffres de l'enquête 2004 disaient qu'on avait 9% de la population française âgée entre 18 et 65 ans qui ont été scolarisés en France, 9% de cette tranche d'âge-là, ce qui s'affiche sur la diapo, hein, je vais y revenir, c'est la nouvelle enquête, hein, je vous parlais d'une temporaison possible, mais en 2004, on était à 9%, 3 100 000 personnes en situation d'illettrisme dans la France hexagonale, j'insiste, dans la France hexagonale, puisque on n'a pas pu réaliser cette enquête dans les territoires ultramarins à cette époque-là, et on est en train de faire une extension de cette enquête dans ces régions-là aujourd'hui. Donc 3 100 000 personnes, et surtout, on a pu montrer que plus de la moitié de ces personnes en situation d'illettrisme, et on va voir qu'en 2011, la proportion est toujours à peu près la meilleure, vivent dans les territoires faiblement peuplés et dans les zones rurales. Donc simplement, si je faisais ce rappel sur cet événement de 2005, c'était aussi pour dire que si on avait à ce moment-là été jusqu'au bout de cette intention... la moitié de la population en situation d'illettrisme passait à côté de toutes les quelques rares actions publiques qui leur sont destinées dans les territoires ruraux. Et c'est pour ça que je faisais, de façon pas uniquement ironique, référence à Château-Chinon. Donc c'était important pour nous, en 2004, de présenter ces chiffres. Donc cette première enquête a permis à tous ceux qui décident et qui mettent en œuvre les actions, et notamment tous nos administrateurs, puisque, comme je vous le disais, nous sommes un groupement d'intérêt public, tous nos administrateurs, ministère de l'Éducation nationale, ministère du Travail et de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ministère de la Famille, ministère de la Ville, ont à avoir en tête ces questions et ces chiffres qui permettent, on l'espère, d'orienter les décisions. Donc cette enquête que nous avions réalisée en 2004... 9% de cette population française âgée entre 18 et 65 ans. Nous l'avons à nouveau réalisé l'année dernière. Et les chiffres que nous avons rendus publics à la fin du mois de décembre montrent que le taux d'illettrisme en France a baissé. Hein. On est passé de 9% à 7% en 2004. Alors, vous allez voir tout de suite que ça représente 2 500 000 personnes par rapport aux 3 100 000. C'est vrai qu'on pourrait... on est satisfait. Mais je dirais on est satisfait surtout parce que il aurait été difficile pour nous et pour tous ceux qui travaillent avec nous sur ces questions-là depuis plusieurs années d'annoncer un chiffre en augmentation. Mais en même temps, je dirais qu'on a le triomphe extrêmement modeste sur cette question-là. Parce que 2 500 000 personnes, ça fait encore beaucoup de monde. Et surtout, si on analyse, j'aurais pas le temps d'entrer dans le détail de la comparaison 2004-2005, mais il faut savoir quand on, quand on regarde cette proportion par tranche d'âge, on voit encore en 2011 comme en 2004 que la proportion des personnes en situation d'illettrisme est la plus importante sur la tranche des plus âgés. Hein, c'est-à-dire plus on avance dans les tranches d'âge élevées, plus la proportion de l'illettrisme est importante. Et donc on a entre 2004 et 2011 ce que l'INSEE dans sa note a appelé un effet générationnel, puisque les plus de 65 ans sont sortis, ne font pas partie de l'échantillon, et donc ceux qui, en 2004, avaient été identifiés en situation d'illettrisme et qui étaient sur cette tranche des 60-65 ans, n'y sont plus. Donc on a cet effet générationnel qu'il faut garder à l'esprit, mais on reste quand même sur une proportion qui permet là aussi de couper court à un certain nombre d'idées reçues qui sont encore malheureusement une fois de plus très souvent véhiculées sur la question de ce modèle d'une école d'autrefois qui était bien meilleure que celle d'aujourd'hui et qui font dire à certains de façon très très affirmative que le certificat d'études des années 50 était bien meilleur que le baccalauréat d'aujourd'hui. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes et on voit bien que c'est sur la proportion des jeunes de 18 à 25 ans. Alors c'est vrai c'est pour ça que j'insiste à chaque fois, je le répète, le triomphe doit être modeste, 9% des 18-25 ans. C'est vrai que ça nous permet de couper court à ces idées reçues sur la question de l'âge, parce qu'on avait fait il y a quelques années un micro-trottoir où on interrogeait des personnes dans la rue sur cette question de l'illettrisme. Pour beaucoup d'entre eux, c'est d'abord un problème de jeunes, c'est d'abord un problème qui est lié aux nouvelles technologies, aux nouveaux langages, et on s'aperçoit que c'est aussi, et évidemment, beaucoup plus un problème de personnes âgées. Et j'insiste sur cette question de personnes âgées, parce qu'il va falloir que nous occupions, parmi nos priorités dans les années à venir, notre enquête s'arrête à 65 ans, mais la question de l'exclusion des personnes de plus de 65 ans aujourd'hui posera évidemment des problèmes importants à notre société dans les années qui viennent. Bon, ça c'est une comparaison simplement pour voir que lorsqu'on compare la courbe 2011 et celle de 2004, il y a quelques nuances importantes, mais qui sont essentiellement, comme je vous le disais, liées à l'effet générationnel. Sur la tranche des plus jeunes, il faut savoir que les courbes, le chiffre que nous donnons sur les 18-25 ans est aussi à mettre à comparer avec le chiffre que chaque année, pour les gens de l'éducation nationale, vous devez le connaître, les journées défense citoyenneté proposent, celui qui montre qu'on a en gros peu ou prou 4,8% des jeunes de la tranche de 17 ans qui sont considérés comme en situation d'illettrisme. Ça, je pense que j'apprends rien aux acteurs de l'éducation que vous êtes en disant que cette question de l'illettrisme touche beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est la proportion d'ailleurs, est légèrement même supérieure qu'en 2004. Donc on a certainement des analyses, notamment je pense qu'ici vous avez dû faire ce travail là autour de la relation que les jeunes garçons, les jeunes hommes ont avec l'écrit, avec la lecture. Sur ces questions là il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites, mais on voit, et c'est quand même extrêmement important, que les hommes sont beaucoup plus nombreux à être en situation d'illettrisme que les femmes. Alors ce chiffre-là, cette proportion-là est extrêmement importante aussi, parce que parmi les idées reçues qui sont fréquentes et qui continuent toujours d'être véhiculées, c'est la situation par rapport à l'emploi. Pour beaucoup, l'illettrisme étant une situation qui soit provient de l'exclusion, soit qui y conduit, on fait le raccourci rapide et on considère, parfois très rapidement, que toutes les personnes en situation d'illettrisme sont au chômage ou sont des bénéficiaires des minima sociaux, ou qu'inversement, que tous ceux qui sont au chômage sont, ou une grande partie d'entre eux sont en situation d'illettrisme. Donc on s'aperçoit que la majorité d'entre eux, 51%, sont en activité professionnelle. Alors ce chiffre reste, la proportion reste au-delà de 50% en 2011, mais le point qui doit nous inquiéter, qui doit nous alerter, et on était avant-hier en réunion avec nos partenaires du travail temporaire notamment, hein, qui, il faut savoir que le monde de l'entreprise se mobilise beaucoup sur ces questions-là, c'est que en 2004, la proportion était de 57%. Donc on peut faire le parallèle aussi avec la crise économique qui touche évidemment lorsque les personnes sont dans l'emploi, parce qu'il faut pas non plus être dans une espèce d'angélisme qui consisterait à dire que on peut être en situation d'illettrisme et ne pas avoir de problème dans son activité professionnelle. Alors évidemment, oui, nous, on est toujours dans cette logique qui consiste à éviter de tomber dans les stigmatisations et dire qu'on peut être en situation d'illettrisme, mais la preuve est ce chiffre, et être en activité professionnelle. Mais ce sont les personnes les plus fragiles. Ce sont les personnes qui, lorsque se mettent en place, et c'est actuellement malheureusement le cas de nombreux plans sociaux, qui sont les premières touchées, parce que l'accès à la formation, qui peuvent permettre de, comme le dit aujourd'hui le ministère de la formation professionnelle, de sécuriser les parcours professionnels, l'accès à la formation passe d'abord par l'information. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui, en situation d'activité professionnelle, pendant longtemps, n'ont jamais utilisé les droits qui sont les leurs, qui sont les droits communs de tout un chacun, du plan de formation de l'entreprise, du congé individuel de formation. Donc on a travaillé pendant de longues années, et encore aujourd'hui, notamment, avec les organisations syndicales. Je donne cet exemple-là, ce n'est pas uniquement anecdotique, mais ça montre aussi les habiletés dont je parlais qui peuvent être développées par ces personnes-là. On a conduit, notamment dans cette région, un travail important avec la CFDT il y a quelques années, qui avait repéré que parmi leurs délégués syndicaux, nombreux étaient ceux qui, lorsqu'ils se retrouvaient dans des stages syndicaux, ne prenaient jamais de notes, et simplement parce que c'était des personnes qui étaient dans ces difficultés-là, mais que par contre, elles avaient développé d'autres compétences, d'autres expertises, et justement ces compétences qui leur permettaient d'être d'excellents représentants des salariés dans leurs différentes instances représentatives. Alors évidemment que les personnes en situation d'illettrisme et qui sont au chômage sont nombreuses, mais il est important d'avoir donc ce chiffre-là à l'esprit. Le dernier que je voulais vous donner, parce qu'il est aussi particulièrement important aujourd'hui dans tous les débats qui nous agitent sur la loi de refondation et sur ce qui va se mettre en place dans les prochains mois, c'est la question de la ruralité. C'est pour ça que j'ai fait toujours ce petit détour par la petite ville de Château-Chinon. On pourra en trouver beaucoup d'autres. La majorité des personnes en situation d'illettrisme, des adultes en situation d'illettrisme, vivent dans des villes de moins de 20 000 habitants ou dans des zones rurales, hein, donc dans le Morvan, en Picardie, dans les plaines d'Alsace, dans le Limousin. Et c'est vrai que là aussi, lorsqu'on avait interrogé en faisant ce micro-trottoir, les personnes, pour beaucoup d'entre elles, la situation d'illettrisme, c'est quelque chose qui touche plutôt Marseille et sa banlieue, Lyon et sa banlieue, Paris et sa ceinture. Et quand on regarde aujourd'hui les régions, je trouve que ce graphique-là est assez révélateur. La région, et c'est pas nouveau, qui est toujours la plus touchée, c'est la Picardie. Et celle qui est la moins touchée par le taux d'illettrisme, c'est la région Île-de-France, la région PACA. On a fait des extensions régionales dans ces différentes régions. Alors avec le cas un peu particulier du Nord-Pas-de-Calais, qui est quand même une région qui est particulièrement touchée par cette question-là, et que ça soit dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Alors, la Bretagne est une des régions qui arrive en tête au niveau de tous les des bons taux, on va dire, hein, au niveau, j'ai pas le chiffre en tête, hein, sur cette question de l'illettrisme, mais ça ne doit pas éviter à ceux qui agissent dans des régions comme celle-ci d'oublier justement dans les zones rurales, notamment tous ceux qui ne bénéficient pas des mêmes offres de services et de formation qu'on peut trouver dans les agglomérations qui, pour beaucoup d'entre elles, ont mis en place un certain nombre de réponses éducatives de qualité. Un autre chiffre qui est important, c'est celui de aussi, pour beaucoup, la question de l'illettrisme est liée à la langue. Donc, parmi les confusions qui ont souvent et qui sont parfois encore entretenues par ceux qui ont besoin justement de ces confusions, c'est de croire que si ces enfants qui sont en difficulté scolaire ou qui risquent de l'être parlaient le français à la maison, ils ne risqueraient pas de tomber dans les situations d'échec scolaire. 71% des adultes, des 2 500 000, donc nous avons enquêté avec l'INSEE, nous disent qu'elles ne parlaient que le français à la maison à l'âge de 5 ans. Donc c'était 74% en 2004. Alors ce chiffre-là est important parce que pour beaucoup, ça aussi, ça fait partie des idées reçues, mais ça fait partie aussi chez certains acteurs. Bon, j'ai l'habitude de le dire de façon un peu provocatrice lorsque je m'adresse à certains auditoires, qu'on a parfois beaucoup plus d'indulgence ou on va dire plutôt presque même de l'émerveillement lorsque on est confronté à un enfant dont les parents parlent une autre langue étrangère chez eux, et surtout si cette langue étrangère est l'anglais, l'allemand ou une de ces langues qui est parfois considérée de façon un peu abusive comme culturellement de meilleure qualité pour pouvoir réussir une scolarité. Mais lorsqu'il s'agit de langues subsahariennes ou du Maghreb, on a parfois tendance à considérer que là, c'est beaucoup plus délicat pour réussir la scolarité. Alors sur la question de... C'était important d'avoir ce contexte-là pour parler et de la prévention de l'illettrisme et de ce qui va aller avec cette démarche des actions éducatives familiales. Donc nous considérons que la prévention de l'illettrisme, une fois qu'on a conscience de ces chiffres-là, c'est de mettre en œuvre avec ceux qui justement agissent sur le terrain des actions au plus près de ceux qui sont concernés, et surtout le plus tôt possible. Je disais tout à l'heure que pendant trop longtemps, on a été, bloqué dans la capacité à agir efficacement, parce que la tendance était surtout de considérer que la question de l'illettrisme ne concernait que l'école. Et en agissant de cette façon-là, on avait un petit peu tendance à oublier que, quel que soit l'âge auquel l'enfant entre à l'école, ça rentrait dans le débat sur l'entrée à 3 ans ou à 2 ans, on sait que l'enfant qui entre à l'école n'est pas, comme le dit Viviane Bouys, vous savez, qui intervient beaucoup sur ces questions-là, c'est pas une page vierge qui arrive, et que tout ce qui a pu se mettre en œuvre dans la famille, en direction des tout-petits, avec les enfants et leurs parents, peut contribuer à ce que sur cette page, il y ait déjà un certain nombre de choses qui soient écrites et sur lesquelles l'enseignant qui aura, lui, à mettre en œuvre ce qui relève de sa compétence au moment de l'apprentissage de la lecture et l'écriture pourra le faire avec plus ou moins de facilité. On insiste beaucoup sur le fait que la prévention de l'illettrisme, c'est quelque chose qui ne doit pas être circonscrit dans le temps et dans l'espace, et que tout n'est pas joué dès qu'on a terminé la fin du premier trimestre du cours préparatoire, et que beaucoup d'actions sont encore possibles après, tout au long de la scolarité. Je ne veux pas prendre trop de temps, simplement ce schéma qu'on utilise pour présenter ce qui pour nous représente la prévention de l'illettrisme. Pour réaliser ce schéma, on s'est beaucoup appuyé justement sur ce que dit Viviane Bouys lorsqu'elle intervient sur ces questions-là, et qu'on lui pose la question de qu'est-ce que pour vous, inspectrice générale, chargée de ces questions-là, qu'est-ce que recouvre la prévention de l'illettrisme pour l'école. Elle répond généralement que la prévention de l'illettrisme, c'est évidemment la mission première de l'école dans le cadre de ces pratiques ordinaires, dans le cadre des pratiques ordinaires de la classe, mais elle insiste aussi beaucoup lorsqu'elle intervient sur ces questions-là, sur le fait que il est important de qu'il est important de s'assurer de la durabilité des apprentissages et de leur irréversibilité, hein, de façon à ce que lorsqu'on sortira de la scolarité obligatoire, on puisse avoir ce fameux socle sur lequel pourra s'ancrer, se consolider les autres compétences qu'on a évoquées d'ailleurs lorsque on parle de ces personnes qui doivent évoluer sur le plan professionnel. Et donc simplement dans ce schéma, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais bien de montrer que il y a ce qui se joue avant d'entrer à l'école dès la naissance. Dès la naissance, on travaille avec une association qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Agir contre les exclusions et les ségrégations culturelles. Leur vice-président, là, le psycholinguiste Emilio Cabrero, dit souvent que la première littérature, c'est la littérature du berceau, et que le babillage du papa ou de maman, ou de la maman au-dessus du berceau de l'enfant est la première. Alors évidemment, la première action que nous pourrions qualifier de prévention de l'illettrisme en étant un petit peu présomptueux. Il s'agit surtout pas de dire à ce père ou à cette mère qu'il est en train de prévenir l'illettrisme lorsqu'il accomplit ce geste spontané, mais il est important d'avoir à l'esprit que tout ce qui se met en place dès le plus jeune âge contribue à la prévention de l'illettrisme. Mais on insiste aussi sur le fait que l'action de l'école est évidemment complétée, soutenue par tout ce qui se situe, y compris parfois de façon contractuelle, à travers et des dispositifs contractuels, justement, comme ceux qui relèvent de l'accompagnement à la scolarité. Et on insiste aussi beaucoup, et parfois je crois qu'on a tendance à un petit peu trop l'oublier, sur l'importance alors de là ce qu'on qualifie comme étant l'extrascolaire, l'extérieur de l'école, ou tout ce que vit l'individu pendant son temps de vacances, quel qu'il soit, de loisirs, sur les territoires de vie, avec d'autres acteurs, avec les pairs, participe aussi à la prévention de l'illettrisme dans la mesure où ça peut permettre de vivre des situations qui permettront à ce que aux situations d'apprentissage formel de trouver des ancrages et du sens. Alors les actions éducatives, la démarche des actions éducatives familiales. Alors lorsque en 2005, nous, c'est important là aussi d'avoir un petit rappel historique. Pourquoi on s'est intéressé à cette question-là, qui est celle de l'implication des familles à l'école. On a été invité en 2005 par le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, de la Santé et des Sports du Québec. Je trouve que c'est intéressant de voir l'intitulé de ce ministère-là, pour venir témoigner de ce que nous faisions, nous, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, sur les champs qui étaient à l'interface entre ce qu'on appelle la prévention de l'illettrisme et la lutte contre l'illettrisme. Et on s'est retrouvé au cours de ce séminaire avec beaucoup d'autres acteurs d'autres pays, pas forcément d'ailleurs ceux auxquels on pense. Il y avait notamment un groupe de travail de l'UNESCO, où on avait des représentants de la Turquie, du Mexique, du Rwanda, du Mozambique, qui évoquaient leurs actions sur le champ de l'alphabétisation familiale, hein, où on montrait que, notamment dans ces pays où on est en train de... savoir qu'on a encore 750 millions de personnes dans le monde qui ne sont pas alphabétisées, notamment beaucoup de filles, hein, dans les pays, notamment de l'ex-Afrique francophone. On voit que les actions qui sont mises en place dans le cadre de la scolarisation de masse pour les enfants sont souvent connectées avec des actions de formation pour les adultes. On a organisé il y a quelques années ici à Lyon une rencontre des pays francophones où étaient présents tous les ministres de l'éducation de ces pays-là. Et la ministre de l'éducation du Burkina Faso expliquait de façon un peu provocatrice en s'adressant aux Québécois, aux Français, qui semblent assez fiers quand même d'une manière générale de leurs systèmes éducatifs, que ça les laissait un petit peu songeurs de voir que des pays comme ceux-ci, qui ont souvent exporté en copier-coller leurs modèles éducatifs, annoncent des taux d'illettrisme particulièrement élevés, alors que la scolarité est dans ces pays-là obligatoire depuis un grand nombre d'années. Et donc elle s'interrogeait beaucoup et elle expliquait que pour eux l'enjeu c'était à chaque fois qu'on construit une école aussi de penser à la construction et à l'articulation avec des centres de formation pour les adultes, de façon à ce que on soit bien dans une approche, alors comme le disent les Québécois, écologique de l'éducation, hein, où on est sur une approche écosystémique, où ce qui se passe dans un système puisse être connecté avec ce qui se passe dans un autre système. Donc lorsqu'on s'est retrouvé dans cette configuration-là, je dois dire qu'on a été un petit peu... non pas surpris, parce qu'on sait que dans notre pays, ce qui relève des politiques familiales, des politiques éducatives, ce sont des territoires qui sont des périmètres qui sont extrêmement cloisonnés les uns entre les autres. On s'est dit qu'il était peut-être temps à ce moment-là, à cette époque-là, d'essayer de dépasser ces cloisonnements entre ces politiques-là, de façon à donner de la légitimité à des actions dont on savait qu'elles existaient depuis longtemps. Et là, je pense notamment au travail d'ATD Quart-Monde et des bibliothèques de rue, ou à tout ce que vous avez fait, je crois que vous l'avez présenté hier sur le quartier de Maurepas, à Rennes ou ailleurs, ou ce que font aussi, j'ai entendu parler de la Fève ce matin, la Fève, avec le travail qu'ils font dans le cadre de l'accompagnement vers la lecture, ou ce que font, ce que je vois que Jocelyne Révolet est ici, des organisations comme les coups de pouce clé. On s'est dit qu'il y a un certain nombre aujourd'hui d'actions dans ce pays, en France, qui depuis longtemps se sont posé la question de l'articulation entre des actions qui sont proposées pour des enfants, mais lorsque ces enfants bénéficient de ces actions-là, ils ne sont pas, comme le disait tout à l'heure, des pages vierges, et ils ont évidemment des parents et qui ont envie, besoin d'être intégrer et de profiter de ces moments-là pour peut-être activer, et c'est ce qui nous a paru important à ce moment-là, et c'est là où on est parti sur un projet expérimental dans un premier temps qui a consisté à dire que au moment où les enfants entrent dans la scolarité, on a une motivation qui est évidente, qui est vérifiée, et ce depuis très longtemps, pour les parents, que de accompagner leurs enfants sur le chemin de l'école. C'est pour ça que j'ai fait ce détour tout à l'heure sur les chiffres, parce qu'il faut savoir que dans notre pays, la plus grosse difficulté pour les personnes en situation d'illettrisme, et d'une manière générale pour toutes celles qui sont à faible capital scolaire, c'est d'oser réapprendre et d'oser franchir un jour le seuil d'un organisme de formation ou toute autre structure qui peut proposer à ces personnes de renouer avec les apprentissages, ou de renouer avec d'autres activités qui peuvent participer pour ces personnes-là à leur émancipation citoyenne, sociale, etc. Et on a considéré qu'il fallait qu'on puisse expérimenter une méthode, alors que certains, comme je le dis, avaient déjà formalisé depuis de longues années. Mais on a profité à ce moment-là d'un financement important de ce qui était à l'époque le Haut Commissariat aux solidarités actives et à la lutte contre la pauvreté, qui nous avait demandé de voir s'il n'y avait pas une corrélation entre réussite éducative, réussite scolaire et implication des parents, notamment par le biais de l'alphabétisation et du retour dans les apprentissages, dans des situations d'apprentissage fondamentaux. Donc on a expérimenté, c'est pour ça que je vous ai parlé de Château-Chinon, notamment sur ce territoire-là, des modalités d'action, alors qui ont peut-être rien d'original dans ce qu'elles ont proposé, parce que justement ça existe depuis très très longtemps. Il y a la possibilité de permettre à des parents, à parité d'estime avec d'autres, j'insiste sur ce thème-là, sur ce terme-là, à parité d'estime avec d'autres, leur ont permis de, dans un premier temps déjà, d'exprimer leurs interrogations, leurs difficultés au moment où leurs enfants entrent à l'école. Donc le travail que nous avons conduit sur plusieurs terrains expérimentaux, donc je parle de Château-Chinon, mais on a aussi travaillé sur ces questions-là dans le Nord-Pas-de-Calais, en Basse-Normandie, à Mayotte, en Guyane, a montré que À partir du moment où on profite de ce levier que représente l'entrée en scolarité des enfants, qu'on réussit avec un outillage approprié, et c'est ce point-là qui est le plus important et peut-être le plus difficile lorsqu'on s'adresse notamment aux acteurs de l'éducation nationale, à mettre en confiance des parents pour qu'ils ne se sentent pas à un moment donné piégés, exclus ou encore une fois étiquetés comme étant ceux qui ne savent pas et qui surtout ne seront pas les bons parents. À partir du moment où on réussit à outiller de façon pertinente tous les acteurs qui interviennent sur les champs, sur les espaces où on peut rencontrer des enfants avec leurs parents ou des parents seuls, à partir du moment où ces acteurs-là, que vous êtes d'ailleurs, sont sensibilisés et qui sont outillés, et que la mise en confiance est installée, que c'est une mise en confiance dont on sait et dont les personnes qui sont concernées savent qu'elle ne sera pas trahie, on peut envisager sur un processus qui, il faut l'avoir à l'esprit, sera parfois particulièrement long, de transformer cette mise en confiance, et c'est un petit peu ce que on vous laissera ce schéma, hein, puisque je vous les ai amenés ici en photocopie. À partir du moment où cette mise en confiance se sera transformée en une mobilisation durable de ses parents, et je vais vous donner maintenant des exemples concrets, on peut imaginer qu'un certain nombre d'entre eux, non seulement on peut l'imaginer, mais on peut le prouver, exemple à l'appui, évaluation à l'appui, qu'un certain nombre d'entre eux entrent, renouent ou osent réapprendre. Alors, je vais prendre deux exemples pour illustrer, parce que je crois que c'est le plus simple, ce qu'est une démarche action éducative familiale. On travaille beaucoup avec la FEV, et on a beaucoup travaillé avec la FEV, donc sur un territoire qui est particulièrement concerné par la question de la pauvreté et des exclusions, c'est la ville de Roubaix, hein, puisque je crois que dans les classements, c'est considéré, je parle sous votre contrôle, mais comme étant la ville la plus pauvre en matière du taux de chômage, de minima sociaux. Et sur la ville de Roubaix, donc, les étudiants de la FEV proposent ce dispositif qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle accompagnement vers la lecture. On a un étudiant volontaire qui va passer une heure et demie par semaine au domicile des familles, parfois à partir d'un travail partenarial qui a pu être conduit avec l'école, avec les travailleurs sociaux. Donc cet étudiant va passer une heure et demie dans une famille pour proposer non pas un temps d'accompagnement scolaire, de soutien scolaire, puisqu'on est plutôt sur des tranches d'âge qui sont les petits, avant même qu'ils entrent dans l'apprentissage de la lecture. Et ce dispositif qui s'appelle accompagnement vers la lecture propose des temps de plaisir partagés autour du jeu, autour de la littérature de jeunesse. Et ces étudiants ne sont pas, et j'insiste sur ce point-là, ne sont pas des professionnels du jeu, ne sont pas des professionnels de la lecture, ce sont des personnes qui vont au domicile d'une famille et vont, dans ce contexte-là, partager un moment. Et ce qui se passe, et la FEV, alors j'entendais Marie-Odile qui évoquait une évaluation tout à l'heure, donc la FEV, vous savez, propose beaucoup d'évaluations, notamment leur baromètre, mais il y a aussi une évaluation de ce dispositif-là. Et cette évaluation avait montré la première année que plus de 87% des parents qui bénéficient de ces actions d'accompagnement vers la lecture, à un moment donné, parce que, et je reviens sur mon schéma, parce qu'elles se sentent en confiance, parce qu'on est sur une personne qui n'est pas dans une posture qui peut être celle de professionnel, qui va désigner le papa ou la maman comme étant celui qui n'est pas compétent parce qu'il ne sait pas lire ou parce qu'il a des difficultés avec la langue pour pouvoir accompagner son enfant sur le chemin de la réussite scolaire, et parce qu'il se retrouve mis en confiance. 87% de ses parents, au bout de quelques séances, hein, ça se met en place très rapidement, vont solliciter l'étudiant pour lui demander par exemple, où est-ce qu'ils peuvent eux aussi trouver des albums de ce type-là, où est-ce qu'ils peuvent emprunter ces livres-là. Et donc pour la grande majorité d'entre eux, ça conduit à une inscription à la bibliothèque de quartier, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour ces personnes qui sont en situation d'illettrisme. Mais pour un grand nombre d'entre eux, et je vais arriver à l'exemple de Roubaix, une fois que la confiance est vraiment installée, il faut savoir que la plupart du temps, il les invite à manger, qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Un grand nombre d'entre eux leur demandent et expriment, osent dire qu'ils ont des difficultés pour lire, pour parler, pour écrire, pour faire ce que l'étudiant propose avec ses enfants, avec leurs propres enfants. Et à ce moment-là, nous, on a travaillé sur ce territoire-là de façon à ce que, à minima, l'étudiant, sans se transformer, j'insiste une fois de plus là-dessus, en professionnel, puisse proposer dans l'environnement de proximité, hein, sur ce quartier de Roubaix, à des parents d'intégrer qui un atelier sociolinguistique pour lui permettre de renouer avec la langue s'il s'agit d'un problème de français, langue étrangère, qui de renouer avec les apprentissages fondamentaux s'il s'agit d'un problème qui est lié à l'illettrisme, ou, parce qu'il est important de ne pas tout instrumentaliser au seul bénéfice de la formation. On peut avoir aussi, parmi les besoins ou les attentes exprimées par les uns et les autres, l'envie de participer à une activité qui est proposée, par exemple, par le centre social du quartier, qui peut être une activité artistique, une activité culturelle. Je donne cet exemple-là et je reviens encore une fois sur Château-Chinon, où j'ai participé à un des groupes de parole de ces mamans en situation d'illettrisme qui rencontraient le directeur du centre social de Château-Chinon, qui s'étonnait de ne jamais les voir, ni elles ni leurs enfants, dans le centre social, et en leur disant « mais il est pourtant aussi fait pour vous, puisqu'on y propose des activités culturelles, des activités d'accompagnement à la scolarité, des activités, on revient sur ce qui entoure l'école, des activités extrascolaires, notamment qui sont liées aux loisirs et aux vacances. » Et là, il y a eu deux réponses de ces deux mamans, notamment de Bernadette, hein, qu'on cite souvent lorsqu'on intervient sur ces questions-là, et qui dit, la première chose qu'elle dit, elle, cette Bernadette, elle dit « on ne savait pas que ça existait ». Et je reviens sur mon cartable, boîte aux lettres. Et puis la deuxième chose qui est rajoutée aussi pour la plupart d'entre elles, c'était de dire on pensait que ce n'était pas pour nous, activité artistique et culturelle. Et on s'était un peu auto-exclu de ce type de d'activités qui sont pourtant proposées par un grand nombre de centres sociaux pour tout le monde. Et donc sur ce quartier de Roubaix, je reviens à Roubaix, on a sur la soixantaine de parents qui bénéficient de cette action-là, on en a un grand nombre d'entre eux qui ont pu franchir la porte d'un organisme de formation pour pouvoir intégrer des formations au savoir de base, en sachant que si on n'avait pas eu ce travail préalable proposé là à travers une modalité qui est bien particulière, qui est celle de la fève de mise en confiance, qui s'est installée dans la durée, on aurait un certain nombre de ces adultes qui n'auraient certainement pas pu franchir de façon efficace toutes les barrières qui existent pour quelqu'un qui aujourd'hui souhaite réapprendre. Donc cet exemple-là, je le donne parce que c'est un exemple qui a été évalué. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette démarche des actions éducatives familiales, et c'est ce que je disais en préambule, il ne s'agit pas pour nous de dire qu'on est en train et qu'on a inventé, formalisé un nouveau dispositif, une nouvelle manière d'agir. On s'est contenté, dans la mission qui est la nôtre aujourd'hui, groupement d'intérêt public, où on travaille en lien avec tous les ministères, de leur dire, vous savez qu'il existe dans ce pays un certain nombre d'actions. Donc j'ai pris cet exemple-là, j'ai pas le temps, il ne me reste que quelques minutes, mais je pourrais aussi expliquer ce que nous sommes en train de faire avec l'APFE, avec d'autres opérateurs, de façon à ce que tous ces espaces, qui sont aujourd'hui des espaces qui sont pensés en termes de propositions d'activité pour les enfants, puissent devenir, à condition que les acteurs qui y interviennent soient outillés sur cette question de la mise en confiance, puissent réellement transformer cette mise en confiance en de la mobilisation. L'exemple qu'on donne souvent lorsqu'on intervient sur ces questions-là, j'étais à Limoges la vendredi où j'intervenais sur un stage où c'était des enseignants du cycle 2 qui participaient à un stage de lecture et ce que j'évoquais avec eux, c'est vrai que cette possibilité qu'on, en s'appuyant s'appuyant d'ailleurs sur des outils que aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale propose. Je pense à la mallette des parents. On aura peut-être l'occasion d'échanger là-dessus si vous connaissez cet outil. On arrive parfois à faire venir, à inviter des parents à participer à des réunions d'information. Mais c'est vrai que si, et c'est pour ça que je parle de l'outillage et que le travail qu'on fait aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale est essentiellement centré sur cette question simple qui est celle de la formation et de la sensibilisation. Simplement, si on dit, vous savez, il est bien de lire un livre à son enfant tous les soirs, c'est vrai que c'est une préconisation que beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le champ de l'éducation, que ce soit sur le champ de la petite enfance ou de la formation initiale, peuvent dire, et c'est légitime de le dire parce qu'on est tous convaincus que c'est pertinent de le dire et de le faire, mais on n'imagine pas forcément, et c'est pas, je dirais, une accusation, mais c'est aussi pour cela que nous on dit que la première étape, c'est la sensibilisation à l'effet que peut produire pour une personne qui est, et c'est ce qui nous concerne, nous, au premier chef en situation d'illettrisme, que d'entendre à travers un propos comme celui-ci, qui n'a pas forcément vocation à être stigmatisant, que d'entendre, de se voir renvoyer une, je dirais, ce que j'appelle souvent moi une double peine, une double incompétence, c'est je suis incapable de lire, écrire et compter, et surtout, on est en train de me dire que parce que je ne serais pas capable de faire, d'accomplir ce geste qui paraît simple pour beaucoup, je serais un mauvais parent. Donc lorsqu'on parle aujourd'hui de la démarche des actions éducatives familiales, ce qu'on propose à ceux avec lesquels on travaille, donc c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est la Caisse nationale d'allocation familiale, c'est le ministère de la Famille, ce sont tous ceux qui, dans le périmètre de leur et de leur champ d'intervention, ont à leur disposition eux-mêmes un certain nombre d'outillages. Je pense à tout ce qui tourne autour de des actions de soutien à la parentalité, de l'accompagnement à la scolarité, et qui sont parfois extrêmement inaccessibles, pour pas dire pour la plupart du temps, qui sont totalement inaccessibles aux personnes. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est y compris un rapport de la Cour des comptes, du Centre d'analyse stratégique, qui montre qu'aujourd'hui, l'un des problèmes importants, notamment des actions de soutien à la parentalité, dont on dit qu'elles sont là pour faciliter notamment l'accompagnement à la scolarité des enfants, sont des actions, même si elles concernent, lorsqu'on regarde les données qui sont recueillies au niveau national, 817 000 familles en France bénéficient d'actions de soutien à la parentalité. Et nous, la question qu'on pose au comité national de soutien à la parentalité, d'une façon peut-être un peu bêtement mathématique, c'est: pensez-vous que sur ces 817 000 familles, êtes-vous certain qu'on va retrouver nos 10% de familles qui sont en situation d'illettrisme? On fait, alors pour ce qui n'est peut-être qu'une hypothèse, mais on est quand même certain, pour être assez souvent sur le terrain et avoir surtout des données qui nous remontent du terrain par ceux qui travaillent sur ces questions-là, que les actions de soutien à la parentalité, réseau d'écoute et d'appui à la parentalité, etc., ne sont pas extrêmement accessibles à ces personnes-là. Et je terminerai, pour répondre à vos questions, encore une fois par une anecdote, mais je trouve qu'elle est particulièrement révélatrice de ce que je suis en train de dire. Je vais citer Bernadette de Château-Chinon. On la cite souvent parce que c'est aussi important pour nous de dire que l'émancipation que peut permettre cette méthode de la démarche des actions éducatives familiales, c'est pas forcément nécessairement la sortie de l'illettrisme. Ça peut paraître paradoxal que le coordonnateur national de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme dise cela, mais je suis pas certain à 100% que 4 ans après avoir bénéficié de cette démarche-là, Bernadette soit aujourd'hui complètement sortie de l'illettrisme et qu'elle est peut-être encore en difficulté lorsqu'il s'agit de lire, d'écrire. Mais par contre, Bernadette, il y a 4 ans, disait elle-même qu'elle n'était jamais sortie au-delà de 30 kilomètres de Château-Chinon. Et c'est une anecdote qui est assez, alors j'allais dire presque émouvante. J'étais en mission en Guyane juste avant Noël, et j'étais dans un organisme de formation où là, une apprenante de Kourou. Une apprenante de Kourou, sachant que je venais de métropole et que je travaillais à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, m'a demandé des nouvelles de Bernadette. Et donc moi j'ai trouvé ça extrêmement étonnant que quelqu'un de Kourou demande des nouvelles de Bernadette qui n'était jamais sortie au-delà de 30 mètres autour de Château-Chinon. Alors elle me demandait des nouvelles de Bernadette parce qu'elle l'avait rencontrée dans un groupe de travail européen qui s'appelle Euralpha, où là on a un certain nombre d'apprenants qui ont décidé de se prendre en charge sur le plan citoyen et qui ont créé une association d'ailleurs à Château-Chinon qui s'appelle Parchemin, où ils vont porter cette parole-là qui est la parole des personnes en situation d'illettrisme entre autres. Et elle avait rencontré Bernadette à Lisbonne et à Bonn. Donc j'ai trouvé ça extrêmement étonnant et ça montre bien aussi que même si Bernadette n'est pas sortie peut-être complètement des situations d'illettrisme, si vous aviez aujourd'hui un jour l'occasion de la rencontrer pour parler de ces questions-là, vous verrez que c'est quelqu'un qui en parle avec justesse, avec passion et qui, lorsqu'elle présente aujourd'hui, puisqu'ils ont tourné un film et je crois que vous aviez fait ici une projection de ce film-là, lorsqu'elle projette ce film et que quelqu'un de la caisse d'allocation familiale de Dijon lui dit « Mais madame, ce que vous nous présentez, c'est un REAP, un réseau d'écoute et d'appui à la parentalité. Ce que vous nous présentez comme étant une action éducative familiale », Bernadette lui répond de façon très très dynamique « C'est quoi, madame, un REAP ?» Alors on lui explique et puis elle lui dit « Est-ce qu'il y en a un Château-Chinon ?» Vraisemblablement, puisque c'est un dispositif à vocation généraliste. Et Bernadette lui dit « Comment je fais pour savoir qu'il y en a un et comment je fais pour y entrer ?» Voilà.